Alfred de Musset, le fils du Titien. Au mois de février de l'année 1580, un jeune homme traversait au point du jour la Piazzetta à Venise. Ses habits étaient en désordre. Sa toque, sur laquelle flottait une belle plume écarlate, était enfoncée sur ses oreilles. Il marchait à grands pas vers la rive des Esclavons, et son épée et son manteau traînaient derrière lui, tandis que d'un pied assez dédaigneux, il enjambait par-dessus les pêcheurs couchés à terre. Arrivé au pont de la Paille, il s'arrêta et regarda autour de lui. La lune se couchait derrière la Giudecca et l'aurore devrait le palais buccal. De temps en temps, une fumée épaisse, une lueur brillante, s'échappait d'un palais voisin. Des poutres, des pierres, d'énormes blocs de marbre, mille débris encombraient le canal des prisons. Un incendie récent venait de détruire au milieu des eaux la demeure d'un patricien. Des gerbes d'étincelles s'élevaient par instants, et à cette clarté sinistre, on apercevait un soldat, sous les armes, veillant au milieu des ruines. Cependant, notre jeune homme semblait frappé ni de ce spectacle de destruction, ni de la beauté du ciel qui le teignait de plus fraîches nuances, et il regarda quelque temps l'horizon, comme pour distraire ses yeux éblouis. Mais la clarté du jour parut produire sur lui un effet désagréable, car il s'enveloppa brusquement dans son manteau et poursuivit sa route en courant. Il s'arrêta bientôt de nouveau à la porte d'un palais où il frappa. Un valet, tenant un flambeau à la main, lui ouvrit aussitôt. Au moment d'entrer, il se retourna, et jetant sur le ciel encore un regard, « Par Bacchus ! » s'écria-t-il. « Oh, mon carnaval me coûte cher !» Ce jeune homme se nommait Pomponio Filippo Vecellio. C'était le second fils du Titien, enfant plein d'esprit et d'imagination, qui avait fait concevoir à son père les plus heureuses espérances, mais que sa passion pour le jeu entraînait dans un désordre continuel. Il y avait 4 ans seulement que le grand peintre et son fils aîné Orazio étaient morts presque en même temps, et le jeune Pippo, depuis 4 ans, avait déjà dissipé la meilleure part de l'immense fortune que lui avait donnée ce double héritage. Au lieu de cultiver les talents qu'il tenait de la nature et de soutenir la gloire de son nom, il passait ses journées à dormir et ses nuits à jouer chez une certaine comtesse Orsini, ou du moins soi-disant comtesse, qui faisait profession de ruiner la jeunesse vénitienne. Chez elle s'assemblait chaque soir une sombreuse compagnie composée de nobles et de courtisanes. Là, on jouait, on soupait, et comme on ne payait pas son souper, il va sans dire que les dés se chargeaient d'indemniser la maîtresse du logis. Tandis que les sequins flottaient par monceaux, le vin de Chypre coulait, les œillades allaient grand train, et les victimes, doucement étourdies, y laissaient leur argent et leur raison. C'est de ce lieu dangereux que nous venons de voir sortir le héros de ce conte, et il avait fait plus d'une perte dans la nuit. Outre qu'il avait vidé ses poches au passe-dix, le seul tableau qu'il eût jamais terminé, tableau que tous les connaisseurs donnaient pour excellent, venait de périr dans l'incendie du palais d'Orfino. C'était un sujet d'histoire, traité avec une verve et une hardiesse de pinceau, presque digne du Titien lui-même, vendu à un riche sénateur, et cette toile avait eu le même sort qu'un grand nombre d'ouvrages précieux. L'imprudence d'un valet avait réduit en cendres ses richesses. Mais c'était là le moindre souci de Pippo. Il ne songeait qu'à la chance fâcheuse qui venait de le poursuivre avec un acharnement inusité et au dé qu'il avait fait perdre. Il commença, en rentrant chez lui, par soulever le tapis qui couvrait sa table et compter l'argent qui restait dans son tiroir. Puis comme il était d'un caractère naturellement gai et insouciant, après qu'on l'eût déshabillé, il se mit à sa fenêtre en robe de chambre. Voyant qu'il faisait grand jour, il se demanda s'il fermerait ses volets pour se mettre au lit ou s'il se réveillerait comme tout le monde. Il y avait longtemps qu'il lui était arrivé de voir le soleil du côté où il se lève, et il trouvait le ciel plus joyeux qu'à l'ordinaire. Avant de se décider à veiller ou à dormir, tout en luttant contre son sommeil, il prit son chocolat sur son balcon. Dès que ses yeux se fermaient, il croyait voir une table, des mains agitées, des figures pâles. Il entendait résonner les cornets. Quelle fatale chance, murmurait-il. Est-ce croyable qu'on perde avec 15? Et il voyait son adversaire habituel, le vieux Vespasiano Memnino, amenant 18 et s'emparant de l'or entassé sur le tapis. Il rouvrait alors promptement les paupières pour se soustraire à ce mauvais rêve et regardait les fillettes passer sur le quai. Il lui sembla apercevoir de loin une femme masquée. Il s'en étonna bien qu'on fût en carnaval, car les pauvres gens ne se masquent pas. Mais il était étrange à une pareille heure qu'une dame vénitienne sortît seule à pied. Mais il reconnut que celui qu'il avait pris pour un masque était le visage d'une négresse. Il la vit bientôt de plus près. Il lui parut assez bien tournée. Elle marchait fort vite, et un coup de vent, collant sur ses hanches sa robe bigarrée de fleurs, dessina des contours gracieux. Pippo se pencha sur le balcon et vit, non sans surprise, que la négresse frappait à sa porte. Le portier tardait à ouvrir. « Que demandes-tu? » cria le jeune homme. « Est-ce à moi que tu as affaire, brunette? Mon nom est Vecellio, et si on te fait attendre, allez, je vais aller l'ouvrir moi-même. » La négresse leva la tête. Votre nom est Pomponio Vecellio? Oui, ou Pippo, comme tu voudras. Vous êtes le fils du Titien? À ton service, qu'y a-t-il pour te plaire? Après avoir jeté sur Pippo un coup d'œil rapide et curieux, la négresse fit quelques pas en arrière, lança adroitement sur le balcon une petite boîte roulée dans du papier, puis s'enfuit promptement, en se retournant de temps en temps. Pippo ramassa la boîte, l'ouvrit, et y trouva une jolie bourse enveloppée dans du coton. Il soupçonna avec raison qu'il pouvait y avoir sous le coton un billet qui lui expliquerait cette aventure. Le billet s'y trouvait en effet, mais il était aussi mystérieux que le reste, car il ne contenait que ces mots. Ne dépense pas trop légèrement ce que je renferme. Quand tu sortiras de chez toi, charge-moi d'une pièce d'or. C'est assez pour un jour, et s'il t'en reste de soir quelque chose, si peu que ce soit, tu trouveras un pauvre qui t'en remerciera. Lorsque le jeune homme eut retourné la boîte de 100 façons, examiné la bourse, regardé de nouveau sur le quai, et qu'il vit enfin clairement qu'il n'en pourrait savoir davantage. Il faut avouer, pensa-t-il, que ce cadeau est singulier, mais il vient cruellement mal à propos. Le conseil qu'on me donne est bon, mais il est trop tard pour dire aux gens qu'ils se noient quand ils sont au fond de l'Adriatique. Mais qui diable peut m'envoyer cela? Pippo avait aisément reconnu que la négresse était une servante. Il commença à chercher dans sa mémoire quelle était la femme ou l'ami capable de lui adresser cet envoi. Et comme la modestie ne l'aveuglait pas, il se persuada que ce devait être une femme plutôt qu'un de ses amis. La bourse était en velours brodé d'or. Il lui sembla qu'elle était faite avec une finesse trop exquise pour sortir de la boutique d'un marchand. Il passa donc en revue dans sa tête d'abord les plus belles dames de Venise, ensuite celles qu'il était moins, Mais il s'arrêta là et se demanda comment il s'y prendrait pour découvrir d'où lui venait sa bourse. Il fit là-dessus les rêves les plus hardis et les plus doux. Plus d'une fois, il crut avoir deviné. Le cœur lui battait, tandis qu'il s'efforçait de reconnaître l'écriture. Il y avait une princesse bolognaise qui formait ainsi ses lettres majuscules, et une belle dame de Brescia dont c'était à peu près la main. Rien n'est plus agréable qu'une idée fâcheuse venant se glisser tout à coup au milieu de semblables rêveries. C'est à peu près comme si en se promenant dans une prairie de fleurs, on marchait sur un serpent. Ce fut ainsi ce qu'éprouva Pippo lorsqu'il se souvint tout à coup d'une certaine Monna Bianchina qui depuis peu le tourmentait singulièrement. Il avait eu avec cette femme une aventure de bal masqué, et elle était assez jolie, mais il n'avait aucun amour pour elle. Monna Bianchina, au contraire, s'était prise subitement de passion pour lui, elle s'était même efforcée de voir de l'amour là où il n'y avait que de la politesse. Elle s'attachait à lui, lui écrivait souvent et l'accablait de tendres reproches. Mais il s'était juré un jour, en sortant de chez elle, de ne jamais y retourner, et il tenait scrupuleusement sa parole. Il vint donc à penser que Monna Bianchina pouvait bien lui avoir fait ça une bourse et la lui avoir envoyée. Ce soupçon détruisit sa gaieté et les illusions qui le berçaient. Plus il réfléchissait, plus il trouvait vraisemblable cette supposition. Il ferma sa fenêtre de mauvaise humeur et se décida à se coucher. Mais il ne pouvait dormir. Malgré toutes les probabilités, il lui était impossible de renoncer à un doute qui flattait son orgueil. Il continua à rêver involontairement. Tantôt il voulait oublier la bourse et n'y plus songer, tantôt il voulait se nier l'existence même de Monna Bianchina afin de chercher plus à l'aise. Cependant, il avait tiré ses rideaux et il s'était enfoncé du côté de la ruelle pour ne pas voir le jour. Et tout à coup, il sauta à bas de son lit et appela ses domestiques. Il venait de faire une réflexion bien simple qui ne s'était pas d'abord présentée à lui. Monna Bianchina n'était pas riche, elle n'avait qu'une servante. Et cette servante n'était pas une négresse, mais une grosse fille de Chioggia. Mais comment aurait-elle pu se procurer pour cette occasion cette messagère inconnue que Pippo n'avait jamais vue à Venise? Béni soit la noire figure, s'écria-t-il, et le soleil africain qui l'a colorée. Et sans s'arrêter plus longtemps, il demanda son pourpoint et fit avancer sa gondole. Il avait résolu d'aller rendre visite à la signora Dorothée, femme de l'avogador Pasqualigo. Cette dame, respectable par son âge, était des plus riches et les plus spirituelles de la République. Elle était en outre marraine de Pippo, et comme il n'y avait pas une personne de distinction à Venise qu'elle ne connût, il espérait qu'elle pourrait l'aider à éclaircir le mystère qui l'occupait. Il pensa toutefois qu'il était encore trop matin pour se présenter chez sa protectrice, et il fit un tour de promenade en attendant sous les procuraties. Et le hasard voulut qu'il y rencontrât précisément Monna Bianchina, qui marchandait des étoffes. Il entra dans la boutique et, sans trop savoir pourquoi, après quelques paroles insignifiantes, il lui dit: Monna Bianchina, vous m'avez envoyé ce matin un joli cadeau. Et vous m'avez donné un sage conseil, je vous en remercie bien humblement. En s'exprimant avec cet air de certitude, il comptait peut-être s'affranchir sur le champ du doute qui l'avait tourmenté. Même Monna Bianchina était trop rusée pour témoigner de l'étonnement avant d'avoir examiné s'il était de son intérêt d'en montrer. Bien qu'elle n'eût réellement rien envoyé au jeune homme, elle vit qu'il y avait moyen de lui faire prendre le change. Elle répondit, « Il est vrai qu'elle ne savait de quoi il lui parlait, mais elle eut soin, en disant cela, de sourire avec tant de finesse et de rougir si modestement, que Pipo demeura convaincu, malgré les apparences, que la bourse venait d'elle. « Et depuis quand, lui demanda-t-il, avez-vous à vos ordres cette jolie négresse ?» Déconcerté par cette question et ne sachant comment y répondre, Donna Bianchina hésita un moment, puis elle partit d'un grand éclat de rire et quitta brusquement Pipo. Resté seul et désappointé, celui-ci renonça à la visite qu'il avait projetée. Il rentra chez lui, jeta la bourse dans un coin et n'y changea pas davantage. Il arriva pourtant quelques jours après qu'il perdit au jeu une forte somme sur parole. Comme il sortait pour acquitter sa dette, il lui parut commode de se sentir de servir de cette bourse qui était grande et qui faisait bon effet à sa ceinture. Il la prit donc et le soir même il joua de nouveau et perdit encore. « Continuez-vous ? » demanda Sir Vespasiano, le vieux notaire de la chancellerie, lorsque Pipo n'eut plus d'argent. « Non, répondit celui-ci, je ne veux plus jouer sur parole. »« Mais je vous prêterai ce que vous voudrez, » s'écria la comtesse Orsini. « Et moi aussi, » dit Sir Vespasiano. « Et moi aussi, » répéta d'une voix douce et sonore une des nombreuses nièces de la comtesse. « Mais rouvrez votre bourse, seigneur Vecellio, il y a encore un sequin dedans. » Pipo sourit et trouva en effet au fond de sa bourse un sequin qu'il y avait oublié. « Soit, dit-il, j'ose encore un coup, mais je ne hasarderai pas davantage. » Il prit le cornet, gagna, se remit à jouer en faisant paroli, bref, au bout d'une heure, il avait réparé sa perte de la veille et celle de la soirée. « Continuez-vous » demanda-t-il à son tour à Sir Vespasiano, qui n'avait plus rien devant lui. « Non, car il faut que je sois un grand sot de me laisser mettre à sec par un homme qui ne hasardait qu'un sequin. Maudite soit cette bourse, elle renferme sans doute quelque sortilège. » Le notaire sortit furieux de la salle. Pipo se disposait à le suivre lorsque la nièce, qui l'avait averti, lui dit en riant « Puisque c'est moi que vous devez avoir, vous devez votre bonheur, faites-moi cadeau du sequin qui vous a fait gagner. » Ce sequin avait une petite marque qui le rendait reconnaissable. Pipo le chercha, le retrouva. Il tendait déjà la main pour le donner à la jolie nièce, lorsqu'il s'écria tout à coup « Eh bien, ma foi, ma belle, vous ne le retirez pas. Non, non, mais pour vous montrer que je ne suis pas avare, en voilà 10 que je vous prie d'accepter. Quant à celui-là, je veux suivre l'avis qu'on m'a donné dernièrement, et j'en fais cadeau à la Providence. » Et en parlant ainsi, il jeta le sequin par la fenêtre. « Est-il possible, pensait-il en retournant chez lui, que la bourse de Donna Bianchina me porte bonheur ? Oh, ce serait une singulière raillerie du hasard si une chose qui en elle-même m'est désagréable avait une influence heureuse pour moi. » Il lui sembla bientôt, en effet, que toutes les fois qu'il se servait de cette bourse, il gagnait. Lorsqu'il y mettait une pièce d'or, il ne pouvait se défendre d'un certain respect superstitieux, et il réfléchissait quelquefois, malgré lui, à la vérité des paroles qu'il avait trouvées au fond de la boîte. « Un sequin est un sequin, » se disait-il. « Il y a bien des gens qui n'en ont pas un par jour. » Mais cette pensée le rendait moins imprudent et lui faisait un peu restreindre ses dépenses. Malheureusement, Donna Bianchina n'avait pas oublié son entretien avec Pipo sous les procurati. Et pour le confirmer dans l'erreur où elle l'avait laissé, elle lui envoyait de temps en temps un bouquet ou une autre bagatelle, accompagnée de quelques mots écrits. J'ai déjà dit qu'il était très fatigué de ces importunités auxquelles il avait résolu de ne pas répondre. Par il arriva que Madame Bianchina, poussée à bout par cette froideur, tenta une démarche audacieuse qui déplut beaucoup au jeune homme. Elle se présenta seule chez lui pendant son absence, donna quelque argent à un domestique et réussit à se cacher dans l'appartement. En rentrant, il la trouva donc et il vit forcé de lui dire sans détour qu'il n'avait point d'amour pour elle et qu'il la priait de le laisser en repos. La Bianchina, qui, comme je l'ai dit, était jolie, se laissa aller à une colère effrayante. Elle accabla Pippo de reproches, mais non plus tendres cette fois. Elle lui dit qu'il l'avait trompée en lui parlant d'amour, qu'elle se regardait comme compromise par lui, et qu'enfin elle se vengerait. Dit-il, prenez aussi cette bourse m'a apporté bonheur, mais apprenez par là que je ne veux. Pippo n'écouta pas ses menaces sans s'irriter à son tour. Pour lui prouver qu'il ne craignait rien, il la força de reprendre à l'instant même un bouquet que lui avait envoyé le matin, et comme la bourse se trouvait sous sa main, tenez, lui dit-il, prenez aussi cela. Cette bourse m'a porté bonheur, mais apprenez par là que je ne veux rien de vous. À peine eut-il cédé à ce mouvement de colère qu'il en eut du regret. Manna Bianchina se garda bien de le détromper sur le mensonge qu'elle lui avait fait. Elle était pleine de rage, mais aussi de dissimulation. Elle prit la bourse et se retira, bien décidée à faire repentir Pippo de la manière dont il l'avait traité. Il joua le soir, comme d'ordinaire, et perdit. Les jours suivants, il ne fut pas plus heureux. Ser Vespasiano avait toujours le meilleur dé, et lui gagnait des sommes considérables. Il se révolta contre sa fortune et contre sa superstition. Il s'obstina et perdit encore. Enfin, un jour qu'il sortait de chez la comtesse Orsini, il ne put s'empêcher de s'écrier dans l'escalier. « Dieu me pardonne, je crois que ce vieux fou avait raison et que ma bourse était ensorcelée, car je n'ai plus de dépassable depuis que je l'ai rendue à la Bianchina. » En ce moment, il aperçut, flottant devant lui, une robe à fleurs, d'où sortaient deux jambes fines et lestes. C'était la mystérieuse négresse. Il doubla le pas, l'accosta, et lui demanda qui elle était et à qui elle appartenait. « Qui sait ?» répondit l'Africaine avec un malicieux sourire. « Toi, je suppose, n'es-tu pas la servante de Monna Bianchina ?»« Non, qui est Monna Bianchina ?»« Eh, pardieu, celle qui t'a chargé l'autre jour de m'apporter cette boîte que tu as si bien jetée sur mon balcon. »« Oh, excellent, je ne le crois pas. »« Eh, je le sais, ne cherche pas à feindre. C'est elle-même qui me l'a dit. » « Oh, si elle vous l'a dit, » répliqua la négresse d'un air d'hésitation. Elle haussa les épaules, réfléchit un instant, puis donnant de son éventail un petit coup sur la joue de Pippo, elle lui cria en s'enfuyant, « Un bon beau garçon, on s'est moqué de toi. » Les rues de Venise sont un labyrinthe si compliqué, elles se croisent de tant de façons par des caprices si variés et si imprévus, que Pippo, après avoir laissé échapper la jeune fille, ne put parvenir à la rejoindre. Il resta fort embarrassé car il avait commis deux fautes, la première en donnant sa bourse à la Bianchina et la seconde en ne retenant pas la négresse. Errant au hasard dans la ville, il se dirigea, presque sans le savoir, vers le palais de la Signora Dorothée, sa marraine. Il se repentait de n'avoir pas fait à cette dame quelque temps auparavant sa visite projetée. Il avait coutume de la consulter sur tout ce qui l'intéressait et rarement il avait eu recours à elle sans en retirer quelque avantage. Il la trouva seule dans son jardin et après lui avoir baisé la main, « Jugez, lui dit-il, ma bonne marraine, de la sottise que je viens de faire. On m'a envoyé il n'y a pas longtemps une bourse. Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la signora Dorothée se mit à rire. Eh bien, lui dit-elle, est-ce que cette bourse n'est pas jolie? Ne trouves-tu pas que les fleurs d'or font bon effet sur le velours rouge? Comment? S'écria le jeune homme. Se pourrait-il que vous fussiez instruite? En ce moment, plusieurs sénateurs entraient dans le jardin. La vénérable dame se leva pour les recevoir et ne répondit pas aux questions que Pipo, dans son étonnement, ne cessait de lui adresser. Lorsque les sénateurs se furent retirés, la signora Dorothée, malgré ses prières et les importunités de son filleul, ne voulut jamais s'expliquer davantage. Elle était fâchée qu'un premier mouvement de gaieté lui fait avouer qu'elle savait le secret d'une aventure dont elle ne voulait pas se mêler. Mais comme Pipo insistait toujours, « Mon cher enfant, lui dit-elle, tout ce que je puis te dire, c'est qu'il est vrai qu'en t'apprenant le nom de la personne qui a brodé pour toi cette bourse, je te rendrai peut-être un bon service, car cette personne est assurément une des plus nobles et des plus belles de Venise. Que cela te suffise donc. Malgré mon envie de t'obliger, il faut que je me taise. Je ne trahirai pas un secret que je possède seul, et que je ne pourrais te dire que si l'on m'en charge, car je le ferai alors honorablement. » Honorablement, ma chère marraine, mais pouvez-vous croire qu'en me confiant à moi seul... Je m'entends, répliqua la vieille dame, et comme, malgré sa dignité, elle ne pouvait se passer d'un peu de malice. Puisque tu fais quelquefois des vers, ajouta-t-elle, mais que ne fais-tu à sonner là-dessus? Voyant qu'il ne pouvait rien obtenir, Pipo mit fin à ses instances. Mais sa curiosité, comme on peut penser, était d'une vivacité extrême. Il resta à dîner chez l'avogador Pasqualigo, ne pouvant se résoudre à quitter sa marraine, espérant que sa belle inconnue viendrait peut-être faire visite le soir. Mais il ne vint que des sénateurs, des magistrats et les plus graves robes de la République. Au coucher du soleil, le jeune homme se sépara de la compagnie et alla s'asseoir dans un petit bosquet. Il réfléchit à ce qu'il avait à faire et il se détermina à deux choses. Obtenir de la Bianchina qu'elle lui rendît sa bourse et suivre en second lieu le conseil que la signora Dorothée lui avait donné en riant, c'est-à-dire faire un sonnet sur son aventure. Il résolut en outre de donner ce sonnet, quand il serait fait, à sa marraine, qui ne manquerait sans doute pas de le montrer à la belle inconnue. Sans vouloir tarder davantage, il mit sur le champ son double projet à exécution. Après avoir ajusté son pourpoint et posé avec soin sa toque sur son oreille, il se regarda d'abord dans une glace pour voir s'il avait bonne mine, car sa première pensée avait été de séduire de nouveau la Bianchina par de feintes protestations d'amour et de la persuader par la douceur. Mais il renonça bientôt à ce projet, réfléchissant qu'ainsi il ne ferait que ranimer la passion de cette femme et se préparer de nouvelles importunités. Il prit le parti opposé. Il courut chez elle en toute hâte, comme s'il eût été furieux. Il se prépara à lui jouer une scène désespérée et à l'épouvanter, si bien qu'elle se tint désormais en repos. Mona Bianchina était une de ces Vénitiennes blondes aux yeux noirs, dont le ressentiment a de tout temps été regardé comme dangereux. Depuis qu'il l'avait si maltraitée, Pipo n'avait reçu d'elle aucun message. Elle préparait sans doute en silence la vengeance qu'elle avait annoncée. Il était donc nécessaire de frapper un coup décisif, sous peine d'augmenter le mal. Elle se disposait à sortir quand le jeune homme arriva chez elle. Il l'arrêta dans l'escalier et la forçant à rentrer dans sa chambre. « Malheureuse femme, s'écria-t-il, qu'avez-vous fait ? Vous avez détruit toutes mes espérances et votre vengeance est accomplie. Bon Dieu, mais que vous est-il arrivé? Demanda la Bianchina stupéfaite. Vous le demandez, mais où est cette bourse que vous m'avez dite venir de vous? Oserez-vous encore me soutenir ce mensonge? Qu'importe si j'ai menti ou non. Je ne sais pas ce que cette bourse est devenue. Ben, tu vas mourir ou me la rendre, s'écria Pipo en se jetant sur elle. Et sans respect pour une robe neuve dont la pauvre femme venait de se parer, il écarta violemment le voile qui couvrait sa poitrine et lui posa son poignard sur le cœur. La Bianchina se crut morte et commença à appeler au secours. Mais Pipo lui bâillonna la bouche avec son mouchoir, et sans qu'elle pût pousser un cri, il la força d'abord de lui rendre la bourse qu'elle avait heureusement conservée. « Tu as fait le malheur d'une puissante famille, lui dit-il ensuite. Tu as jamais troublé l'existence d'un des plus illustres maisons de Venise. Tremble ! Cette maison redoutable veille sur toi. Ni toi, ni ton mari, vous ne ferez un seul pas, maintenant, sans qu'on ait l'œil sur vous. Les seigneurs de la nuit ont inscrit ton nom sur leurs livres. Pense aux caves du palais ducal. Au premier mot que tu le diras pour révéler le secret terrible que ta malice t'a fait deviner, ta famille entière disparaîtra. » Il sortit sur ces paroles et tout le monde sait qu'à Venise, on en pouvait prononcer de plus effrayantes. Les impitoyables et secrets arrêts de la Corte Maggiore répandaient une terreur si grande que ceux qui se croyaient seulement soupçonnés se regardaient d'avance comme morts. Ce fut justement ce qui arriva au mari de la Bianchina, sœur Oro, à qui elle raconta, à peu de choses près, la menace que Pipo venait de lui faire. Il est vrai qu'elle en ignorait les motifs, et en effet, Pipo les ignorait lui-même, puisque toute cette affaire n'était qu'une fable. Mais sœur Orio jugea prudemment qu'il n'était pas nécessaire de savoir par quel motif on s'était attiré la colère de la Cour suprême, et que le plus important était de s'y soustraire. Il n'était pas né à Venise. Ses parents habitaient la terre ferme. Alors il s'embarqua avec sa femme le jour suivant, et l'on n'entendit plus parler d'eux. Ce fut ainsi que Pipo trouva moyen de se débarrasser de la Bianchina et de lui rendre avec usure le mauvais tour qu'elle lui avait joué. Elle crut toute sa vie qu'un secret d'État était réellement attaché à la bourse qu'elle avait voulu dérober, et comme dans ce bizarre événement tout était mystère pour elle, elle ne put jamais former que des conjectures. Les parents de Sœur Orso, Sœur Orio, en firent le sujet de leurs entretiens particuliers. Et à force de suppositions, ils finirent par créer une fable plausible. Une grande dame, disait-il, s'était éprise du Tizianello, c'est-à-dire du fils du Titien, lequel était amoureux de Mona Bianchina et perdait bien entendu ses peines auprès d'elle. Or, cette grande dame qui avait brodé elle-même une bourse pour le Tizianello n'était autre que la Dogaresse en personne. Et qu'on juge de sa colère en apprenant que le Tizianello avait fait le sacrifice de ce don d'amour à la Bianchina. Telle était la chronique de famille qu'on se répétait à voix basse à Padoue, dans la petite maison de Sœur Lorio. Satisfait du succès de sa première entreprise, notre héros songea à tenter la seconde. Il s'agissait de faire un sonnet pour sa belle inconnue. Comme l'étrange comédie qu'il avait jouée l'avait ému malgré lui, il commença par écrire rapidement quelques vers où respirait une certaine verve. L'espérance, l'amour, le mystère, toutes les expressions passionnées ordinaires aux poètes se présentaient en foule à son esprit. « Mais, pensa-t-il, ma marraine m'a dit que j'avais affaire à une des plus nobles et des plus belles dames de Venise. Il me faut donc garder un ton convenable et l'aborder avec plus de respect. » Il effaça ce qu'il avait écrit Et passant d'un extrême à l'autre, il rassembla quelques rimes sonores auxquelles il s'efforça d'adapter, non sans peine, des pensées semblables à sa dame, c'est-à-dire des plus belles et des plus nobles qu'il put trouver. À l'espérance trop hardie, il substitua le doute craintif, et au lieu de mystère et d'amour, il parla de respect et de reconnaissance. Ne pouvant célébrer les attraits d'une femme qu'il n'avait jamais vue, il se servit le plus délicatement possible de quelques termes vagues qui pouvaient s'appliquer à tous les visages. Bref, après 2 heures de réflexion et de travail, il avait fait 12 vers passables, fort harmonieux et très insignifiants. Il les mit au net sur une belle feuille de parchemin et dessina sur les marges des oiseaux et des fleurs qu'il coloria soigneusement. Mais dès que son ouvrage fut achevé, il n'eut pas plutôt relu ses vers qu'il les jeta par sa fenêtre dans le canal qui passait près de sa maison. « Mais que fais-je donc ?» se demanda-t-il. « À quoi bon poursuivre cette aventure si ma conscience ne parle pas ?» Il prit sa mandoline et se promena de long en large dans sa chambre, en chantant et en s'accompagnant sur un vieil air composé pour le sonnet de Pétrarque. Au bout d'un quart d'heure, il s'arrêta, son cœur battait, il ne songeait plus ni aux convenances, ni à l'effet qu'il pourrait produire. La bourse qu'il avait arrachée à la Bianchina et qu'il venait de rapporter comme une en conquête était sur sa table. Il la regarda. « La femme qui a fait cela pour moi, se dit-il, doit m'aimer et savoir aimer. Un pareil travail est long et difficile. Ses fils légers, ses vives couleurs demandent du temps. » Et en travaillant, elle pensait à moi. Dans le peu de mots qui accompagnaient cette bourse, il y avait un conseil d'ami et pas une parole équivoque. Ceci est un cartel amoureux envoyé par une femme de cour. N'eût-elle pensé à moi qu'un jour? Il faut bravement relever le gant. Il se remit à l'œuvre et en reprenant sa plume, il était plus agité par la crainte et par l'espérance que lorsqu'il avait joué les plus fortes sommes sur le coup de dés. Sans réfléchir et sans s'arrêter, il écrivit à la hâte un sonnet dont voici à peu près la traduction. Lorsque j'ai lu Pétrarque, étant encore enfant, j'ai souhaité d'avoir quelque gloire en partage. Il aimait en poète et chantait en amant. De la langue des dieux, lui seul sut faire usage. Lui seul eut le secret de saisir au passage les battements du cœur qui durent un moment, et riche d'un sourire, il en gravait l'image du bout d'un stylet d'or sur un pur diamant. Ô vous qui m'adressez une parole amie, qui l'écriviez hier et l'oubliez demain, souvenez-vous de moi qui vous en remercie. J'ai le cœur de Pétrarque, n'est pas son génie. Je ne puis ici-bas que donner en chemin ma main à qui m'appelle, à qui m'aime ma vie. » Pipo se rendit le lendemain chez la signora Dorothée. Dès qu'il se trouva seul avec elle, il posa son sonnet sur les genoux de l'illustre dame en lui disant « Voilà pour votre ami. » La signora se montra d'abord surprise, puis elle lut les vers et jura qu'elle ne se chargerait jamais de les montrer à personne. Mais Pipo n'en fit que rire, et comme il était persuadé du contraire, il la quitta en assurant qu'il n'avait là-dessus aucune inquiétude. Il passa, cependant, la semaine suivante dans le plus grand trouble, mais ce trouble n'était pas sans charme. Il ne sortait pas de chez lui et n'osait pour ainsi dire remuer comme pour bien laisser faire la fortune. En cela, il agit avec plus de sagesse que l'on acte ordinairement à son âge, car il n'avait que 25 ans et l'impatience de la jeunesse nous fait souvent dépasser le but en voulant atteindre trop vite. La fortune veut qu'on s'aide soi-même et qu'on sache la saisir à propos. car, selon l'expression de Napoléon, elle est femme. Mais par cette raison même, elle veut avoir l'air d'accorder ce qu'on lui arrache, il faut lui donner le temps d'ouvrir la main. Ce fut le 9e jour, vers le soir, que la capricieuse déesse frappa à la porte du jeune homme. Et ce n'était pas pour rien, comme vous allez voir. Il descendit et ouvrit lui-même. La négresse était sur le seuil. Elle tenait à la main une rose qu'elle approcha des lèvres de Pippo. Baisez cette fleur, lui dit-elle. Il y a dessus un baiser de ma maîtresse. Peut-elle venir vous voir sans danger? Oh, ce serait une grande imprudence, répondit Pippo, si elle venait en plein jour. Mes domestiques ne pourraient manquer de la voir. Est-il possible de sortir la nuit? Non. Qui l'oserait à sa place? Elle ne peut ni sortir la nuit, ni vous recevoir chez elle. Ah, il faut donc qu'elle consente à venir autre part qu'ici, dans un endroit que je l'indiquerai. Non, c'est ici qu'elle veut venir. Veuillez à prendre vos précautions. Pipo réfléchit quelques instants. Ta maîtresse peut-elle se lever de bonne heure? Demanda-t-il à la négresse. À l'heure où se lève le soleil? Eh bien, écoute. Je me réveille ordinairement fort tard, par conséquent toute ma maison dort la grasse matinée. Si ta maîtresse peut venir au point du jour, je l'attendrai, et elle pourra pénétrer ici sans être vue de personne. Pour ce qui est de la faire sortir ensuite, je m'en charge, si toutefois elle peut rester chez moi jusqu'à la nuit tombante. Oh, elle le fera, vous plaît-il que ce soit demain? Demain, à l'aurore, dit Pippo. Il glissa une poignée de sequins sous la gorgerette de la messagère, puis sans se demander davantage, il regagna sa chambre et s'y enferma, décidé à veiller jusqu'au jour. Il se fit d'abord déshabiller afin qu'on crût qu'il allait se mettre au lit. Lorsqu'il fut seul, il alluma un bon feu, mit une chemise brodée d'or, un collet de senteur et un pourpoint de velours blanc avec des manches de satin de la Chine. Puis, tout en étant bien disposé, il s'assit près de la fenêtre et commença à rêver à son aventure. Il ne jugeait pas aussi défavorablement qu'on le croirait peut-être de la promptitude avec laquelle sa dame lui avait donné rendez-vous. Il ne faut pas d'abord oublier que cette histoire se passe au XVIe siècle, et les amours de ce temps-là allaient plus vite que les nôtres. D'après les témoignages les plus authentiques, il paraît certain qu'à cette époque, ce que nous appellerions de l'indélicatesse passait pour de la sincérité. Il y a même lieu de penser que ce qu'on nomme aujourd'hui vertu paraissait alors de l'hypocrisie. Quoi qu'il en soit, une femme amoureuse d'un joli garçon se rendait sans de longs discours, et celui-ci n'en prenait pas pour cela moins bonne opinion d'elle. Personne ne songeait à rougir de ce qui lui semblait naturel. C'était le temps où un seigneur de la cour de France portait sur son chapeau, en guise de panache, un bas de soie appartenant à sa maîtresse, et il répondait sans façon à ceux qui s'étonnaient de le voir au Louvre dans cet équipage, que c'était le bas d'une femme qui le faisait mourir d'amour. Tel était d'ailleurs le caractère de Pipo que, fût-il né dans le siècle précédent, il n'eût peut-être pas entièrement changé d'avis sur ce point. Malgré beaucoup de désordre et de folie, s'il était capable de mentir quelquefois à autrui, il ne se mentait jamais à lui-même. Enfin, je veux dire par là qu'il aimait les choses pour ce qu'elles valent et non pour les apparences, et que tout en étant capable de dissimulation, il n'employait la ruse que lorsque son désir était vrai. Or, s'il pensait qu'il eût un caprice dans l'envoi qu'on lui avait fait, du moins il n'y croyait pas voir le caprice d'une coquette. J'en ai dit tout à l'heure les motifs qui étaient le soin et la finesse avec lesquels sa bourse était brodée et le temps qu'on avait dû mettre à l'affaire. Pendant que son esprit s'efforçait de devancer le bonheur qui lui était promis, il se souvint d'un mariage turc dont il avait fait le récit. Quand les Orientaux prennent femme, Ils ne voient qu'après la noce le visage de leur fiancé, qui jusque-là reste voilé devant eux comme devant tout le monde. Il se fit à ce que leur ont dit les parents et se marient ainsi sur parole. La cérémonie terminée, la jeune femme se montre à l'époux, qui peut alors vérifier par lui-même si son marché conclu est bon ou mauvais. Et comme il est tard pour s'en dédire, il n'a rien de mieux à faire que de le trouver bon, et l'on ne voit pas du reste que ces unions soient plus malheureuses que d'autres. Pippo se trouvait précisément dans le même cas qu'un fiancé turc. Il ne s'attendait pas, il est vrai, à trouver une vierge dans sa dame inconnue, mais il s'en consolait aisément. Il y avait en outre cette différence à son avantage, que ce n'était pas un lien aussi solennel qu'il allait contracter. Il pouvait se livrer au charme de l'attente et de la surprise, sans en redouter les inconvénients, et cette considération lui semblait suffire pour le dédommager de ce qui pourrait d'ailleurs lui manquer. Il se figura donc que cette nuit était réellement celle de ses noces, et il n'est pas étonnant qu'à son âge, cette pensée lui causât des transports de joie. La première nuit des noces doit être en effet, pour une imagination active, un des plus grands bonheurs possibles, car il n'est précédé d'aucune peine. Les philosophes veulent, il est vrai, que la peine donne plus de saveur au plaisir qu'elle accompagne, mais Pippo pensait qu'une méchante sauce ne rend pas le poisson plus frais. Il aimait donc les jouissances faciles, mais il ne les voulait pas grossières. Et malheureusement, c'est une loi presque invariable que les plaisirs exquis se perdent chèrement. Or, la nuit des noces fait exception à cette règle. C'est une circonstance unique dans la vie, satisfaisant à la fois les deux penchants les plus chers à l'homme, la paresse et la convoitise. Elle amène dans la chambre d'un jeune homme une femme couronnée de fleurs, qui ignore l'amour et dont une mère s'était forcée depuis 15 ans d'ennoblir l'âme et d'orner l'esprit. Pour obtenir un regard de cette belle créature, il faudrait peut-être la supplier pendant une année entière. Et cependant, pour posséder ce trésor, l'époux n'a qu'à ouvrir les bras. La mère s'éloigne. Dieu lui-même le permet. Si en s'éveillant d'un si beau rêve, on ne se trouvait pas marié, qui ne voudrait le faire de tous les soirs? Pippo ne regrettait pas de ne point avoir adressé de questions à la négresse, car une servante en pareil cas ne peut manquer de faire l'éloge de sa maîtresse, fût-elle plus laide qu'un péché mortel, et les deux mots échappés à la signora Dolote suffisaient. Bon, il eût voulu seulement savoir si sa dame inconnue était brune ou blonde. Pour se faire une idée d'une femme, lorsqu'on sait qu'elle est belle, rien n'est plus important que de connaître la nuance de ses cheveux. Pippo hésita longtemps entre les deux couleurs. Enfin, il s'imagina qu'elle avait les cheveux châtains afin de mettre son esprit en repos. Mais il ne sut alors comment décider de quelle couleur étaient ses yeux. Il les aurait supposés noirs si elle eût été brune et bleus si elle eût été blonde. Il se figura qu'ils étaient bleus, oh non pas de ce bleu clair et indécis qui est tour à tour gris ou verdâtre, mais de cet azur pur comme le ciel qui, comme dans les moments de passion, prend une teinte plus foncée et devient sombre comme l'aile du corbeau. À peine ses yeux charmants lui eurent-ils apparu, avec un regard tendre et profond, que son imagination les entoura d'un front blanc comme la neige et de deux joues roses comme les rayons du soleil sur le sommet des Alpes. Entre ces deux joues, aussi douces qu'une pêche, il crut voir un nez effilé comme celui du buste antique qu'on a appelé l'amour grec. Au-dessous, une bouche vermeille, ni trop grande ni trop petite, laissant passer entre deux rangées de perles une haleine fraîche et voluptueuse. Le menton était bien formé et légèrement arrondi. La physionomie franche, mais un peu altière. Sur un cou un peu long, sans un seul pli, d'une blancheur mate, se balançait mollement, comme une fleur sur sa tige, cette tête gracieuse et toute sympathique. À cette belle image, créée par la fantaisie, il ne manquait que d'être réelle. « Elle va venir, » pensait Pipo. « Elle sera ici quand il fera jour. » Et ce qui n'est pas le moins surprenant dans son étrange rêverie, c'est qu'il venait de faire sans s'en douter le fidèle portrait de sa future maîtresse. Lorsque la frégate de l'État, qui veille à l'entrée du port, tira son coup de canon pour annoncer 6 heures du matin, Pipo vit que la lumière de sa lampe devenait rougeâtre et qu'une légère teinte bleue colorait ses vitres. Il se mit aussitôt à sa croisée. Oh, ce n'était plus cette fois avec des yeux à demi fermés qu'il regardait autour de lui. Bien que sa nuit se fût passée sans sommeil, il se sentait plus libre et plus dispo que jamais. À l'heure où, chez nous, les boutiques s'ouvrent, les passants se croisent, les voitures roulent, les brouillards se jouaient sur la lagune déserte et couvraient d'un rideau les palais silencieux. Le vent ridait à peine l'eau. Quelques voiles paraissaient au loin du côté de l'usine, apportant à la reine des mers les provisions de la journée. Seul, au sommet de la ville endormie, l'ange du campanile de Saint-Marc sortait brillant du crépuscule et les premiers rayons du soleil étincelaient sur ses ailes dorées. Cependant, les innombrables églises de Venise sonnaient l'Angélus à grand bruit. Les pigeons de la République, avertis par le son des cloches dont ils savent compter les coups avec un merveilleux instinct, traversaient par bandes à tire-d'aile la rive des Esclavons pour aller chercher sur la grande place le grain qu'on y répand régulièrement pour eux à 7 heures. Les brouillards se levaient peu à peu. Le soleil parut. Quelques pêcheurs secouèrent leurs manteaux et se mirent à nettoyer leurs barques. L'un d'eux entonna, d'une voix claire et pure, un couplet d'un air national. Du fond d'un bâtiment du commerce, une voix de basse lui répondit. Une autre, plus éloignée, se joignit au refrain du second couplet. Bientôt le chœur fut organisé, et chacun faisait sa partie tout en travaillant, et une belle chanson matinale salua la clarté du jour. La maison de Pipo était située sur le quai des Esclavons, non loin du palais Nanni, à l'angle d'un petit canal. En cet instant, au fond de ce canal obscur, brilla la scie d'une gondole. Un seul barcarolle était sur la poupe, mais le frêle bateau fendait l'onde avec la rapidité d'une flèche et semblait glisser sur l'épais miroir où sa rame plate s'enfonçait en cadence. Au moment de passer sous le pont qui sépare le canal de la grande lagune, la gondole s'arrêta. Une femme masquée, d'une taille noble et svelte, en sortit et se dirigea vers le quai. Pipo descendit aussitôt et s'avança vers elle. « Est-ce vous ?» lui dit-il à voix basse. Pour toute réponse, elle prit sa main qui lui présentait et le suivit. Aucun domestique n'était encore levé dans la maison. Sans dire un seul mot, ils traversèrent sur la pointe du pied la galerie inférieure où dormait le portier. Arrivé dans l'appartement du jeune homme, la dame s'assit sur un sofa et resta d'abord quelque temps pensive. Elle ôta ensuite son masque. Pipo reconnut alors que la signora Dorothée ne l'avait pas trompé et qu'il avait en effet devant lui une des plus belles femmes de Venise, et l'héritière de 2 nobles familles, Béatrice Loredano, veuve qui procurateur Donato.